France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, honneur à celui que nous aimons tous. Il est né voici 200 ans, le 20 juin 1819. Aujourd'hui, Offenbach est de retour à l'Opéra Comique avec une de ses dernières œuvres, Madame Favart, dont l'histoire se mêle à celle de ce théâtre. Pour en parler, Anne Kessler de la Comédie Française, metteur en scène du spectacle, la soprano Anne-Catherine Gillet ainsi que Jean-Philippe Biojou, auteur d'un livre sur Offenbach. Ils seront à mes côtés dans un instant, juste le temps de décider ce qu'on va manger aujourd'hui.
Fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous, fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous. J'ai une jolie femme dont je suis épris, mais voilà le drame, elle se lève la nuit, sortant de sa chambre à peine vêtue. Elle se frotte le ventre et me dit d'une voix menue: fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous, fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous. Et moi qui m'endormais rêvant à ses baisers, à ses lèvres vermeilles, voilà mon réveil. Fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous, fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous. J'ai trouvé la recette pour décourager sa passion secrète qui me tient éveillé. Je remplace les pois chiches par des haricots, et comme je m'en fiche, je jette la semoule au moineau. C'est plus du couscous chéri, c'est plus du couscous, c'est plus du couscous chéri, c'est plus du couscous. Rongé de désespoir, pour une femme affamée, j'ai trouvé un nouveau mets. C'est plus du couscous chéri, c'est plus du couscous, c'est plus du couscous chéri, c'est plus du couscous. Fini le couscous chéri, fini le couscous, et désormais mon poulet, je veux du cassoulet.
Ah, c'était un vrai méditerranéen, Bob Azam, égyptien d'origine libanaise, mort à Monaco en 2004. Il a signé quelques succès, notamment ce fameux « Fais-moi du couscous chéri » en 1960. L'occasion de le réécouter puisque Bob Azam et son orchestre sont au cœur d'une compilation qui vient de paraître chez Frémaux et Associés. Et vous avez remarqué au passage dans cette chanson, c'est la femme qui décide et l'homme qui est au fourneau.
Thank you.
Paganini Mazurka par l'excellent Médard Ferrero, une mazurka à variation enregistrée en 1935.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais je vous l'ai dit, aujourd'hui nous rendons hommage au grand Jacques. Il est né il y a presque jour pour jour 200 ans, en juin 1819. On le sait, il avait un amour particulier pour la salle Favart, autrement dit l'opéra comique. Or justement, il est de retour dans quelques jours avec une œuvre qui s'intitule Madame Favart et dont l'histoire se relie subtilement à celle de ce théâtre. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce matin Anne Kessler, Anne-Catherine Gillet et Jean-Philippe Biojou.
Le retire, tout fumant et tout doré. Aussitôt, chacun admire le gâteau bien préparé. Il a fort belle apparence, on est pressé d'en manger. Mais pour de la consistance, il ne faut pas exiger. Mettez-le dans la balance, c'est léger, 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 léger. Mettez-le dans la balance, c'est léger, 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 léger. C'est léger, léger, c'est léger, bien léger. Chacun dit la belle mine, c'est un gâteau sérieux. Mais pour peu qu'on l'examine, on s'aperçoit qu'il est creux. Bien des gens dans notre France ainsi peuvent se juger. Tout plein de leur importance, vous les voyez se gonfler. Mettez-les dans la balance, c'est léger, 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 léger. Mettez-les dans la balance, c'est léger, 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 léger. C'est léger, léger, c'est léger, bien léger.
Aimé Donia en 1965 dans cette chanson extraite de Madame Favart d'Offenbach a eu, je crois, un grand succès à la création. Bonjour Anne Kessler.
Bonjour.
Peut-être vous pouvez nous situer cet échaudé, qu'est-ce que ça veut dire dans la pièce?
Alors, c'est-à-dire que là, Favart est déguisé
Monsieur
en...
Favart.
Monsieur Favart.
Favart.
Monsieur Favart. Charles Simon Favart est déguisé en cuisinier,
voilà,
pour se cacher. Et son père était lui-même pâtissier. Donc, il a des facilités pour parler de ce qu'il est en train de fabriquer, c'est-à-dire ce fameux gâteau.
Voilà, parce que le vrai père du vrai Favart était effectivement pâtissier.
Oui, absolument.
Donc, comme je le disais à l'instant, c'est vraiment une œuvre, cette Madame Favart que vous mettez en scène, dans laquelle s'entremêle l'histoire réelle des personnages qui ont donné leur nom à la salle Favart et un spectacle qu'on découvre sur la scène de l'Opéra Comique. C'est
C'est très subtil et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotion parce qu'il y a beaucoup de vérité,
oui,
effectivement, transcendée, décalée par la poésie et la fantaisie et le talent d'Offenbach, mais oui, qui part d'une réalité.
Voilà, et donc c'est aussi l'histoire de ces personnages historiques qui nous racontent réellement dans la pièce avec ces librettistes. Hein.
Absolument.
Voilà, d'assez près, quoi, enfin.
Oui, 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 oui. D'assez près, mais enfin, il n'est pas nécessaire de connaître l'histoire pour la comprendre. Et je pense que ceux qui connaissent cette histoire voient à quel point elle est quand même très transposée.
Alors, on est à quelques jours de la première, hein. La tension monte.
La tension monte, oui. l'envie de montrer et de surtout faire entendre ça au public. Et voilà, beaucoup
surtout
d'impatience.
Faire entendre, c'est bien de part de quelqu'un qui vient du théâtre de dire ça. La musique, ça compte aussi.
Ah non, mais je pense que l'image aide à faire entendre, mais c'est toujours l'oreille qui est la plus importante.
Anne-Catherine Gillet, à quelques jours de la première, vous êtes contente, heureuse, vous avez été séduite par l'œuvre. J'imagine que vous ne la connaissiez pas, parce qu'on ne la donne jamais.
Non, c'est vrai que je ne la connaissais pas. Et c'est vrai que ce qui était très sympa, c'est pendant les répétitions, on était à côté des bureaux, notamment d'Agnès, et alors il y avait sur le mur...
Agnès, la musicologue, Thérier, de l'Opéra Comique. Hein,
oui,
voilà.
Et il y avait sur le mur, il y avait toute la biologie, non, excusez-moi.
La généalogie.
Oui, c'est parce que c'est mon fils qui a eu l'examen de bio. Du coup, il est un peu tôt et je mélange un peu les... Et donc, j'ai pu me rendre compte à quel point c'est vrai que l'histoire des Favart et l'histoire en général,
s'entremêlent dans cette salle Favart plus que jamais, puisque vous serez sur scène.
C'est hallucinant parce que cette Madame Favart, à l'époque où on... où se situe l'histoire. Elle a une petite vingtaine d'années, elle est toute jeune.
Et alors vous, il faut préciser, donc Anne-Catherine Gillet, vous ne chantez pas le rôle de Madame Favart,
non.
Vous chantez le rôle de l'autre héroïne féminine qui s'appelle Suzanne.
Hein. Voilà, qui est voilà. Un peu un pendant, qui est un peu pour contrebalancer le personnage de Madame Favart, qui est plutôt une rebelle, une femme affirmée, un petit peu en avance sur son temps. Suzanne est un petit peu plus conforme, un peu plus, une jeune fille, qui de prime abord est encore un petit peu sous l'emprise de papa, mais.
Alors on va la retrouver justement tout de suite, cette Suzanne, dans un des rares enregistrements d'un de ses airs, qu'on a ici dans nos archives, et puis aussi avec le concours de mon ami Jean-Christophe Keck. Claude Bergeret en 1963 dans cette ère de Suzanne, brillant, là, c'est du plus pur plaisir de bel canto, on peut dire, Anne-Catherine Gillet.
Ah oui, et puis dans la mise en scène, il y a aussi pas mal de trucs à jouer, ça va être assez...
Ah oui, de jouer et chanter en même temps
C'est-à-dire que Anne m'a demandé de finir par une petite acrobatie, donc...
Tout en faisant la vocalise ?
Non,
non, tout fais... ça est bien calé quand même.
Je fais mon aigu, et puis après, hop. On termine en grand écart.
Quand on a la chance d'avoir Anne-Catherine Gillet qui est danseuse, ainsi, vraiment, c'est assez extraordinaire. Et qu'on est chez Offenbach et qu'on a envie de. On pense à toutes ces danses.
Mais il y a la tentation, peut-être, Anne Kessler, quand on est metteur en scène du spectacle et qu'on n'est pas spécialiste jusqu'à présent du monde de l'opéra, de dire voilà, on va faire jouer les chanteurs entre les morceaux, puis on va les laisser chanter pendant les morceaux.
C'est-à-dire qu'on pourrait avoir cette tentation, mais cette œuvre est tellement une continuité. C'est tellement, le chant est tellement là pour transcender le sentiment qui vient d'être un peu formulé par oral juste avant, qu'on ne peut pas détacher l'un de l'autre. Non, vraiment.
Alors, Jean-Philippe Viojou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être aussi avec nous aujourd'hui. Vous êtes aussi chanteur d'ailleurs, mais vous êtes notamment plus récemment l'auteur d'un excellent petit livre sur Offenbach aux éditions Bleu Nuit. Vous êtes par ailleurs le directeur, on en reparlera. Mais peut-être entrons dans le vif du sujet là aussi tout de suite. Madame Favart, c'est la toute fin de la vie d'Offenbach, puisque c'est, je crois, avant La fille du tambour majeur,
oui,
et les contes d'Hoffmann, son avant-dernière œuvre.
C'est ça. Offenbach est passé plusieurs fois par l'opéra comique, où il a fait ses classes, mais alors à l'époque c'était un bâtiment qui était face à la bourse, qui a été entièrement rasé après
Quand il était tout jeune.
Il était jeune, il était dans la fosse. Et puis après, il a été joué plusieurs fois à l'opéra comique, mais alors c'est un bâtiment qui malheureusement a brûlé en 84. À l'emplacement actuel, avec une allure assez proche, ils l'ont presque reconstruit à l'identique, mais avec quelques petites différences. Et donc on pourrait dire, en gros, en tout cas il a connu l'emplacement, et il a connu cette salle où il a plusieurs œuvres œuvres qui ont été créées.
Mais pas Madame Favart. Hein.
Pas Madame Favart, parce que Madame Favart, il venait de perdre la direction de la Gaîté Lyrique, théâtre oui. qui,
théâtre
alors pareil,
Paris, hein.
qui a été entièrement rasé à l'intérieur. Il n'y a plus qu'une petite salle, il reste la façade, mais tous ces bâtiments ont beaucoup changé. Et puis, il le monte La Haine de Sardou, qui est un flop terrible. De toute façon, il avait dépensé près de 400 000 francs de l'époque. On est à plusieurs millions rien que pour les hallebardes et les costumes. Donc, c'est un flop. Il perd la Gaîté. Il promet de rembourser tout le monde. Et il a besoin de nouveaux théâtres. Et il y en a un à ce moment-là qui est une salle qui est aussi importante. C'était 1800 places. Les Folies Dramatiques, elles se trouvaient à côté de l'actuelle Place de la République.
Voilà. Dans tous ces théâtres qui ont disparu au moment des travaux
de
la fin du 19e siècle.
Et il signe un contrat de trois œuvres. La première, La Foire Saint-Laurent, ça marche moyennement. Après, il y a Madame Favart qui lui connaît un très joli succès. Et puis après, le troisième, qui sera le dernier gros succès de son vivant, c'est La Fille du Tambour Major. Il a connu. Alors officiellement, pour lui, c'est sa 100e œuvre lyrique, La Fille du Tambour Major.
Ah oui.
Mais ça dépend comment on les compte.
Et on le verra, on y reviendra tout à l'heure. Ce sont trois œuvres qui sont assez différentes de l'opéra bouffe d'Offenbach. Ce sont des œuvres qui jouent beaucoup avec l'histoire vraie, l'histoire de France notamment. Hein. On va y revenir dans un instant. Mais dites-nous juste, Jean-Philippe Biojou, vous-même, donc je disais, vous êtes chanteur à l'origine.
Je plaide coupable, oui.
Et aujourd'hui, vous êtes auteur d'un livre dans une maison d'édition que vous dirigez par ailleurs. Mais donc, cette passion pour Offenbach, elle est pour vous très ancienne, puisque c'est la. Voilà. On vous découvre comme auteur à travers Offenbach.
Et je suis quasiment venu au chant par Offenbach. Ah je racontais dans mon introduction, j'avais un oncle avocat qui, comme beaucoup de gens, avait chanté La Belle Hélène. Donc, toutes les réunions familiales, on avait droit à l'entrée des rois.
Ah bon,
je m'étais dit, ça a l'air formidable. Qu'est-ce que ça a l'air drôle. Il faut que j'apprenne ça. Et le premier jour où j'ai commencé à jouer La Belle Hélène, ça m'a beaucoup rappelé la chose. Donc oui, d'une certaine façon, je suis venu au chant et à la musique par mon oncle et par Offenbach, qui est une musique tellement spirituelle. Comme disait Madame Kessler, ce qui est formidable, c'est que la musique suggère un geste. Quand Offenbach met une vocalise, elle n'est pas gratuite. C'est pour raconter quelque chose. Ouais. Et un metteur en scène peut s'en inspirer parce que ça donne tout de suite une idée d'un geste. Et c'est pas juste une vocalise pour de la musique pure. C'est qu'il va y avoir un moment de folie du personnage ou un moment de caresse ou d'intimité. Et ça, il y a quand même très peu de compositeurs qui offrent vraiment une possibilité de donner un vrai sens à la musique qu'on est en train de chanter. Thank you.
une autre œuvre d'Offenbach que j'adore et je voudrais bien voir enfin sur une scène à Paris, Geneviève de Brabant. Jean-Philippe Biojou, vous êtes d'accord, c'est un petit bijou de loufoquerie, Geneviève de Brabant.
Mais justement, c'est très délicat, c'est sûrement l'une des pièces les plus folles. On est complètement dans le bouffe et il faut comprendre le bouffe dans le sens, justement, non-sens, un peu comme les Monty Python, un peu comme des proches.
Et là, donc, dans ce galop interprété par le Boston Pops Orchestra, tiré de Geneviève de Brabant, en plus, c'est devenu par la suite l'hymne des Marines américains, tellement Offenbach avait eu de succès aux États-Unis à l'époque.
Et beaucoup d'Américains ne le savent pas. Et petite anecdote, quand il a fait une tournée aux États-Unis pour se renflouer après avoir perdu la gaieté, il était payé 1000 francs, ce serait l'équivalent aujourd'hui de 18 000 euros le concert, donc c'était vraiment pour remplir les poches. Il arrive le premier soir, le public l'attend sous les fenêtres de l'hôtel, alors il va les saluer, eux très déçus, « Oh, bah, il danse pas le cancan !» Bah non, c'est un chef d'orchestre et un compositeur, c'est pas un danseur.
Voilà. En tout cas, bon, on va reparler tout à l'heure bien sûr de Madame Favart, mais je me tourne à nouveau vers Anne Kessler, que je suis très heureux d'accueillir, parce que vous êtes donc sociétaire de la Comédie Française, on vous a vu dans beaucoup de spectacles, vous avez également mis en scène un certain nombre de spectacles. Ça me rappelle au fond que la Comédie Française, c'est un théâtre où la musique a longtemps occupé une grande place, il y a même eu un orchestre, Offenbach l'a même dirigé. Aujourd'hui, la musique a peut-être un petit peu déserté la Comédie Française, mais vous la retrouvez à l'Opéra Comique, qui est le théâtre de la musique.
C'est vrai que je le retrouve quand même à la Comédie Française, la chanson son revient énormément, oui, et là, oui, il y a un spectacle de Gainsbourg par exemple au studio qui met à l'honneur ce grand compositeur.
Mais il y avait autrefois un chef de la musique, un orchestre.
Oui, absolument. Voilà. Mais moi, j'ai chanté avec un orchestre.
Encore là-bas,
le Barbier de Séville, il y avait un orchestre et je chantais mal, mais je chantais avec l'orchestre.
Voilà, et donc, en tout cas, Offenbach est lui aussi passé, on le sait, par cette Comédie Française.
Où il a été, je crois,
Les comédiens n'ont pas été très tendres avec lui.
Ça s'est pas si bien passé que ça.
Ça s'est pas si bien passé. Pour eux, la musique était secondaire. Nous, ça nous fait rêver. Vous imaginez qu'à l'époque, chaque théâtre avait son orchestre. Enfin, même les petits théâtres sur les boulevards, chacun avait son orchestre de plus de 20 musiciens. Donc à la Comédie Française, Offenbach est arrivé plein d'espoir en se disant oh, « on va parler de moi ». Et puis le public parlait pendant ses ouvertures qu'il composait. Donc il y a même certains soirs, il a demandé à son frère de tenir la baguette parce que tellement il était frustré. Mais il a rencontré le grand monde et les comédiens. Mais c'est ces comédiens qui ont permis à Offenbach de pouvoir ouvrir son premier théâtre.
Et je note aussi, Anne Kessler, vous parliez de la chanson à l'instant, parmi vos aventures musicales. C'est vous notamment qui avez mis un spectacle, je dois dire, ça m'avait bien attiré, même si je n'ai pas eu le temps d'y aller à ce moment-là, qui était la reprise de cette fameuse conversation dont tout le monde connaît l'affiche entre Brel, Brassens et Léo Ferré.
Oui, c'était passionnant. C'était extraordinaire de reconstituer cette chose avec des comédiens qui jouaient, qui ne leur ressemblaient pas, mais qui finissaient par leur ressembler, un peu comme les enfants qu'on a adoptés, qui ressemblent à leurs parents par affinité, par mimétisme. Et la parole spontanée de ces trois poètes. Et c'était si vivant qu'il y avait parfois des soirs où les gens intervenaient, par exemple lorsqu'ils étaient un peu misogynes, il y avait des femmes qui disaient « mais enfin, et vous ?» et puis qui s'interrompaient en disant « mais non, c'est pas eux, on n'est pas en direct ». Mais c'était très vivant. Et c'était...
Moi, j'en parlais hier soir avec Jacques Nerson qui me disait que ce qui l'avait frappé, lui, c'est qu'il trouvait qu'il y avait un brin de... légère condescendance de Brel et de Brassens vis-à-vis de Léo Ferré.
C'est-à-dire que Léo Ferré, il avait tellement envie que cette histoire existe entre tous les trois, qu'effectivement, il était un petit peu en sous-régime dans cette émission. Alors que Brel et Brassens étaient très amis et puis n'avaient pas tellement envie d'être là. Tout petit peu plus désinvolte. Voilà, c'est ça qu'on pouvait avoir cette impression-là, je comprends.
Voilà. Alors aujourd'hui, vous vous confrontez donc à une vraie œuvre lyrique. Oui. Comment ça s'est fait? C'est Olivier Monteil qui vous...
Olivier Monteil.
Le directeur de l'Opéra Comique.
Oui, et c'est drôle parce que c'est en me voyant jouer dans un Phédo, mis en scène par Isabelle Nanty, en me voyant dans un personnage un peu dingue, qui est Madame Pinglet dans l'Hôtel du Libre-Échange, qui savait que je mettais en scène et qui, grâce à ce personnage, s'est dit « Tiens, Phédo, Offenbach, peut-être que... »
Les liens sont forts entre le répertoire de Vaudeville et de Boulevard et le monde d'Offenbach, d'une certaine façon.
Ah, mais c'est évident. Et effectivement, aussi avec la biche.
Parce que c'est... qui est vraiment un personnage de l'époque, carrément.
Voilà, exactement. Et c'est frappant. Et moi, quand j'ai lu le livret de Madame Favart, j'ai ri, j'ai adoré ça, je trouvais ça très fin. Ouais. J'ai vraiment eu envie que entendre les chanteurs, acteurs jouer ça, et je me suis dit que ça allait réjouir le public, parce que c'est vraiment drôle.
Mais les chanteurs, ils sont vraiment acteurs ? Ah, ou oui. C'est vous qui les transformez en acteurs?
Ah non, on transforme aucun artiste en une vie, donc en trois semaines, non. Et la première lecture était étincelante et je me suis dit, il faut garder cette fraîcheur pour que le public puisse profiter de cette fraîcheur et de ce talent-là aussi.
Alors un autre personnage tient de scène et de musique que vous adorez, c'est Charlie Chaplin.
Oui. Je trouve qu'il y a du Chaplin aussi chez Offenbach. Je ne sais pas s'ils auraient pu se rencontrer, mais
c'est un petit peu limite pour les dates, mais en tout cas, dans l'esprit, c'est vrai.
Chaplin a entendu du
Offenbach.
Du Offenbach, et oui, je trouve qu'il y a un lien. Oui.
Bon, bah, alors pour vous faire plaisir, on va écouter Limelight.
C'était aussi parce que c'était du violoncelle. Alors.
Voilà. Feu de la rampe de Charlie Chaplin, voilà, une espèce d'enfant lointain d'Offenbach qu'on évoque ce matin à l'occasion du bicentenaire de sa naissance et de la création à l'Opéra Comique de Madame Favart, une de ses dernières œuvres mises en scène par Anne Kessler, dirigée par Laurent Campellone, avec un très beau plateau vocal, et notamment Anne-Catherine Gillet, qui est avec nous ce matin, et qui chante l'air de Suzanne, et qui vous êtes effectivement, vous êtes à la fois comédienne, chanteuse, danseuse.
D'abord chanteuse, et puis danseuse, non, pas du tout, je fais les
Anne Kessler, non, je fais les danseuse.
C'est parce qu'à chaque fois que je suis dans une production, j'ai des rituels, je fais le grand écart à un moment donné, je fais mon intéressante.
Voilà.
À un moment donné, je fais le grand écart et à un autre moment donné, je chante Ne partez pas sans moi de Céline Dion. Voilà.
Mais y compris dans le spectacle? Non, vous n'avez pas réussi à insérer
Je n'ai pas réussi à insérer
dans les répétitions
Céline
seulement.
Dion. Voilà. Non, c'est-à-dire que j'ai une passion pour l'Eurovision et on était au mois de mai et donc avant Roland-Garros, il y a l'Eurovision.
Oui.
Donc, chez nous en Belgique, il y a aussi le Reine-Elisabeth. Donc parfois c'est compliqué, c'est la même semaine.
Voilà.
Donc j'ai un planning de dingue. Donc,
vous ne regrettez pas, enfin vous êtes beaucoup trop jeune pour l'avoir connu, mais l'époque où le concours Eurovision était vraiment le concours où chaque pays chantait des chansons dans sa langue, et ce qui donnait beaucoup plus de couleurs, de variété à l'image qu'on pouvait se faire de l'Europe, non?
Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est beaucoup plus les candidats de Voice, etc. Des concours de chansons, donc ça devient plus international et plus uniforme, mais quand même, ça reste quelque chose, un petit. Enfin, moi, ça me fait penser à quand j'étais petite, on regardait en famille et c'était.
Vous venez de nous le dire, vous êtes né en Belgique, et il faut dire que Liège, qui est une ville où vous avez aussi passé beaucoup de temps,
est une
ville qui a été très importante dans l'histoire de l'opéra français. Pendant très longtemps, il y avait une tradition d'opéra et d'opérette à Liège assez extraordinaire. Je ne sais pas s'il en restait encore quelque chose quand vous débutiez là-bas. Mais ce qui me fascine aussi, c'est que vous avez travaillé avec quelqu'un qui est pour moi un modèle d'acteur-chanteur. À vos tout débuts, c'était Jules Bastin.
Oui, ça a été mon professeur au conservatoire à Bruxelles. Et c'est vrai que Jules Bastin avait une diction. En fait, il fait partie de ces chanteurs que j'adore et dont je suis fan. C'est des chanteurs comme Xavier Deprat.
Aussi, bien sûr.
On a l'impression qu'ils chantent pas tellement.
Qui continue à raconter quelque
chose. Le texte devient chant, le chant devient texte. On ne sait plus si c'est chanté ou parlé.
Voilà.
Pour moi, c'est l'âme.
Quelle joie d'entendre ça, si tous les chanteurs
mais
nous
oui,
parlent
mais
comme ça.
C'est
Anne-Catherine.
Non.
Elle donne cette sensation.
Absolument.
Elle aide. C'est pour ça que
c'est... Arrêtez, Anne Kessler. Arrêtez.
J'arrête.
Vous en faites trop.
Alors, ça, c'est le côté, j'ai envie de dire, théâtral. Mais par ailleurs, ça m'amusait aussi de voir que quand vous étiez toute jeune, vous aviez un autre modèle qui est beaucoup plus vocal, pour le coup. C'est la regrettée Mado Robin.
Ah oui, non, mais bah, j'ai eu
parce
des...
Parce que vous êtes une coloratour...
Non, plus maintenant. J'ai eu des enfants, je suis vieille, tout ça.
Mais, vous n'allez plus si haut
Non. Oh là là, j'ai mué. Devenir mère, ça vous en laisse des idées.
Ça fait baisser la voix.
Il y a les hormones, tout ça. Donc là, et puis la voix change, et puis le grand âge, tout ça.
Vous faites vraiment grand âge quand on vous voit.
Non, mais c'est vrai que je suis passionnée par les défis. Anne me dit un jour, tu ferais pas le grand écart. Je dis, oui, évidemment. Bon, au bout du troisième jour, quand même, je commence à avoir des courbatures. Donc là, ça va être 2 heures d'échauffement aujourd'hui pour arriver à soutenir le défi. Mais donc, je m'étais dit, mais toutes les semaines, je vais gagner un demi-ton.
Alors voilà, vous montez aussi haut que Mado Robin à l'arrivée.
Exactement.
Voire un demi-ton de plus, même.
J'étais fan de... Tous les jours, je chantais la fauvette de Zémir et Azor de Gritry. Mais quand même, ce défi a très vite eu ses limites parce que j'étais pas une vraie légère coloratour. Mes enfants me l'ont révélé après, donc comme je vous dis, parce que quand on donne naissance, on perd une tierce mineure.
Ah carrément, une tierce mineure. Un enfant égale une tierce mineure.
Ouais.
Et au deuxième enfant, une deuxième tierce mineure.
C'est pour ça que j'en ai fait que deux. Parce que à 15 ans, j'en voulais 8. Mais donc, là, je serais plus... j'aurais plus que 3 notes, du coup. Donc, je me suis dit non.
Alors, en tout cas, vous renonçant finalement à devenir Mado Robin, vous n'en avez pas moins exploré un répertoire très vaste, au sein duquel l'opéra français est important, mais pas du tout exclusif.
Oui, et l'opérette aussi, parce que c'est vrai que je travaille pas mal avec Jean-Pierre Rac à mes débuts.
Jean-Pierre Rac de la Comédie française ?
Non.
Non ?
Non, Jean-Pierre Rac.
Ah non, le chef d'orchestre, pardon.
Le chef d'orchestre.
Je confonds avec le metteur en scène d'un Feydeau à la Comédie française.
Continuons. C'est vrai que tous les ans, on allait à Badems et où il y avait un festival Offenbach. Et donc on y donnait une pièce. Donc on a fait Verveer, on a fait Le Fifre enchanté, on a fait j'en oublie.
Excellent chef d'opérette que j'avais eu le plaisir de le recevoir ici, Jean-Pierre Rac. Il est belge également. Et vraiment passionné par ce répertoire. Alors je disais, vous avez exploré vraiment des genres très divers. Mais moi, j'ai retrouvé dans votre discographie relativement récente, une chose qui m'a enchanté, c'est un extrait du Guillaume Tell de Grétry.
Ah oui, on l'a donné en 2013.
Encore un Belge, tiens.
Encore un Belge, oui, exactement. Et c'est vrai que ça a été un grand bonheur aussi, ça s'est donné à Liège, avec beaucoup, je crois, toute la distribution était belge, pour le coup, et on a été dirigé par le directeur Stefano Mazzonis, le directeur de l'Opéra de Liège. Et ça a été, mais je pense que la première semaine de répétition, j'avais plus de voix, tellement on a ri. Mais tellement on a ri, parce que c'est vrai que... Bon, on l'a fait sérieusement.
Pas une opérette, hein,
attention. Non, mais le concept même était assez drôle, et on s'est vraiment bien amusé, on était une belle bande d'amis. Et donc...
Vous chantiez le rôle de Madame Tell. Hein.
Oui, ça m'a fait un coup, parce que jusque-là, j'avais les jeunes filles. Et puis là, je devenais Madame, donc je me suis dit, ça y est, je passe un cap.
On vous retrouve justement dans ce bel air de Grétry. Guillaume Tell, voilà un Guillaume Tell qu'on ne connaît pas forcément aussi bien que celui de Rossini, qui est pourtant une belle œuvre hein, que vous avez enregistrée, Anne-Catherine Gillet, dans cette ère donc, de Madame Tell. Une de vos nombreuses incursions dans le répertoire, on peut dire, justement de l'opéra comique. Vous étiez d'ailleurs à l'opéra comique il n'y a pas si longtemps que ça, dans le Domino Noir.
Oui.
Voilà, mis en scène par Christian Eck, que je confondais tout à l'heure avec Jean-Pierre Hack.
Voilà, voilà. Qui est belge aussi.
Qui est belge aussi, mais de la Comédie Française quand même, Kessler.
Absolument.
Et qui fait lui aussi, ça devient des habitudes, hein, les incursions. Ou les passages, les navettes entre l'opéra comique et la Comédie Française.
Oui,
on pourrait en citer d'autres encore.
Oui, on pourrait citer Denis Podalydès, oui. Ou Éric Ruff.
Éric Ruff également, qui avait monté le Pré-au-Clair, je crois, des rôles très jolis spectacles.
Oui.
C'est presque naturel maintenant, ce va-et-vient.
Ce serait bien qu'il le soit encore plus.
Ouais, qu'il le soit encore plus entre ces deux grandes scènes pleines d'histoire et au répertoire merveilleux. Alors, Jean-Philippe Biojou, vous avez donc, je le disais, écrit ce livre sur Offenbach qui vient de sortir pour le bicentenaire d'Offenbach. Peut-être, avant de revenir tous les trois à Madame Favart, c'est bien d'expliquer ce tournant qui se produit dans l'œuvre d'Offenbach après la guerre de 1870, où, on le sait, il a été beaucoup attaqué, puis qui a marqué la fin du Second Empire. Et il va encore écrire des opéras bouffes après, mais il y a des nouveaux genres, au fond, qui se développent dans l'opérette parisienne et auxquels il va largement contribuer à la fin de sa vie, assez éloigné de la Péricole, de la Belle Hélène ou de la vie parisienne.
Tout à fait, mais il l'est un peu forcé parce que c'est aussi le goût du public qui change.
Oui.
Aujourd'hui encore, on continue de l'identifier autant à Napoléon III, c'est parce qu'il a été le symbole de ce régime, de cette époque et du bouffe. Et ça lui tient à cœur. Mais le public et passait à autre chose. Il a d'ailleurs un de ses, on pourrait presque dire, disciples, parce que c'est lui qui l'a révélé avec son premier concours d'opérette, Le Coq, oui. qui devient un concurrent de plus en plus fort, à tel point que la troisième exposition universelle, on est donc dans les années 70, Offenbach fait tout son possible pour être joué, et c'est la première fois où il ne sera pas sur une scène à Paris, tardivement une reprise, mais alors que c'est Le Coq qui triomphe avec Le Petit Duc. Et Le Petit Duc, on
mais
est
justement,
des choses...
Le Petit Duc, comme La Fille de Madame Angot, ça vraiment, ça lance, on peut dire, un nouveau genre, oui. qui est une opérette, qui au fond est plutôt un petit opéra comique, qui nous raconte un épisode de l'histoire de façon légère, mais qui n'est plus du tout un grand délire,
tout à fait,
comme on faisait dans les opéras bouffes. Hein.
C'est beaucoup plus sage, et ça perd, du coup, peut-être aussi son piquant, ouais. ce côté, toujours sur cette même période, c'est là qu'Offenbach va écrire aussi une petite pièce, on est à la limite du vérisme, c'est Pomme d'Api.
Oui.
Pomme d'Api, il y a des très jolis passages, je pense le duo où il raconte comment il a rencontré Pomme, Gustave a rencontré Pomme à une fête foraine, et là la description, on est à la limite d'un sujet vériste.
Ouais.
Pour Offenbach écrit ça pour le théâtre de la Renaissance, donc qui est d'ailleurs le théâtre où Le Coq est le plus souvent présent, et ce qui vaut à Offenbach de l'appeler le Meyerbeer de la Renaissance, parce que les liens deviennent très tendus.
Alors ce qui est intéressant, donc à la fin de sa vie, vous nous avez dit qu'il écrit ses trois spectacles pour le théâtre des Folies Dramatiques,
oui.
et c'est que les deux premiers de ces trois spectacles, donc la Foire Saint-Laurent et Madame Favart, sont tous les deux inspirés par l'histoire de ce théâtre national de l'opéra comique.
Oui, tout à fait. Et c'est un sujet de toute façon qui était très à la mode. Au moment où Offenbach sort Madame Favart, Le Coq, lui, traite le même sujet avec une pièce qui s'appelle La Camargo, mais qui ne connaît pas le succès de Madame Favart, parce que très vite, Madame Favart, ça va tellement plaire que ça va être joué en province et à l'étranger, ça va être repris partout.
Et ça porte la mention, faut dire, d'opéra comique, hein.
Oui, alors
mais alors qu'on utilise beaucoup à l'époque, souvent pour ce qu'on considère aujourd'hui comme des opérettes. Enfin, la nuance est complexe.
Lui, il l'a utilisé dès le début. Sa première œuvre qui lui permet de rentrer à la SACD avant même qu'il crée ses bouffes parisiens, c'est Pépito. Et Pépito, c'est titré
opéra comique
ouais. en un acte.
Ouais.
Donc, c'est quelque chose. Il y a un rapport très ambigu d'Offenbach avec l'opérette. Il a écrit, j'ai écrit des opérettes parce que ces petites pièces en un acte au départ étant des petites pièces, on appelait ça des opérettes. Mais comme le terme est très vite devenu négatif, péjoratif. Lui, il l'a utilisé, mais il ne l'a pas écrit sur ses partitions. Et il y a des choses, moi j'ai un gros doute, parce que quand on voit des partitions où il y a marqué opérette en un acte, ce sont souvent des éditions qui datent du XXe siècle. Et pour les éditeurs, du coup, opérette, ça veut dire spectacle facile.
Est-ce qu'on pourrait dire que Madame Favart est néanmoins un opéra comique, au sens plus classique du terme ?
Ah bah, tout à fait, puisque oui. là, on est tout à fait sur la forme avec les textes. Et justement, c'est pour ça qu'Offenbach s'est battu longtemps, c'est qu'il se plaignait que l'opéra comique n'était plus comique, avait perdu son sens comique, et quand il crée ses bouffes, c'est son objectif clairement dévoilé et clairement assumé.
Alors, peu d'extraits de Madame Favart sont passés vraiment à la postérité, mais quelques-uns ont été quand même pas mal enregistrés, et je propose qu'on retrouve peut-être celui qui est resté le plus célèbre, chanté par la grande Edmé Favart. En plus, elle s'appelait aussi Favart, mais c'était une chanteuse d'avant-guerre qui chante donc « Ma mère aux vignes m'envoyit ». Il faut peut-être expliquer le sens de cet air dans la pièce, comment ça...
C'est Madame Favart qui se déguise en serveuse pour enivrer les soldats, les endormir et pouvoir fuir avec son époux.
Et le petit jeu sur la rime en i, c'est comme ça, c'est juste une fantaisie musicale, on peut dire.
Hein. Offenbach parlait parfaitement le français. Ce qui est amusant, c'est qu'il a toujours gardé son accent allemand, très marqué, mais il écrivait parfaitement le français.
D'ailleurs, mais là, il joue avec la rime, en tout cas.
Oui, parce qu'après, elle dit, je sais comment ça se fit, et
voilà.
tous les fins de mots sont en i.
En i jusqu'à la fin du morceau, voilà.
Ma mère aux vignes m'envoyait, aux vignes m'envoyait. Je sais comment ça fit, je sais comment ça fit. En partant, elle m'avait dit, travaille ma fille, pendant je grappille. En chemin, Colin m'a porté, il me prit ma main et l'a baisé. Je ne sais comment ça fit, je sais comment ça fit. Il me prit ma main et l'a baisé, ma main et l'a baisé. Et c'est mais ma vertu le repoussit si rudement qu'il entendit. Je sais comment ça fit, je sais comment ça fit. Mais en tombant, il m'entraînit, tombant, il m'entraînit. Je ne sais comment ça se fit, je ne sais comment ça se fit. Ni l'un ni l'autre se blessit, ni l'autre se blessit. Travaille ma fille, mon ange graphique. Cependant, le coup m'étourdit, si bien que ma fine y m'endormit.
Edmé Favard dans ce rôle de Madame Favard avec cette chanson assez célèbre. Ça vous plaît, Anne-Catherine Gillet, cette façon de chanter?
Oui, beaucoup. Non, mais c'est vrai, comme on disait, c'est vrai que c'est resté dans son jus, moi.
Voilà.
Moi, j'aime bien, même si maintenant, on ne chante plus comme ça.
Tout à fait et comme ça.
Voilà, c'est...
On mais roule c'est... un petit peu moins le R, mais on le roule quand même.
Moi, je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire à un moment donné, quand on est dans une salle. Mais il faut savoir doser pour voilà. Ne pas que ça soit trop, justement...
Il faut préciser, en tout cas, que c'est Marion Leberg, hein, qui a beaucoup de talent également et qui aime en plus ce répertoire léger qu'elle pratique déjà depuis, je crois, un certain temps aussi, notamment avec les frivolités parisiennes. Donc, Marion Leberg qui... elle chante le rôle hein, de Madame Favard.
De Madame Favard, magnifiquement, oui.
Voilà.
Absolument.
Alors donc, peut-être rappelons en quelques mots, rappelons, ou plutôt expliquons en quelques mots, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Donc, Monsieur Favard, qui est le vrai Charles Edmond Favard, qui est un des pères de l'opéra comique, aussi bien comme musicien que comme librettiste, là, à l'époque, n'a pas du tout créé l'opéra comique. C'est donc un épisode de l'histoire vraie de sa vie, c'est-à-dire que sa femme, qui lui était très fidèle, en fait, voilà, est devenue, si j'ose dire, voilà, la cible d'un militaire qui est très amoureux d'elle, et ils vont donc se cacher en fait avec Charles Edmond. C'est un peu le sujet de la pièce dans leur jeunesse, hein, c'est ça.
Voilà. C'est exactement le sujet de la pièce, parce que justement le problème de sa femme, c'est qu'elle est vertueuse et qu'elle voilà. Se refuse à ce maréchal qui a de Saxe.
Qui est le maréchal de Saxe.
Le maréchal voilà. De Saxe qui a beaucoup de pouvoir et qui.
Et qui est un homme effectivement très important hein, dans l'histoire. Il a inspiré même. Enfin, il a été amoureux d'autres grandes figures du théâtre et de l'opéra. Hein.
Oui, oui, il était très attiré par. par les femmes, et c'était les femmes des autres, tant pis, c'était celle-là qu'il voulait. Quoi.
Voilà, et donc les librettistes d'Offenbach, qui sont en l'occurrence dans cette pièce, on peut peut-être quand même le préciser, les librettistes d'Offenbach...
Duru et Chivot.
Duru et Chivot, qui ont été un duo important dans toute l'histoire de l'opérette, donc en tire cette histoire, qui est au fond l'histoire de la fuite du couple Favard, de la façon dont ils se cachent pour échapper au maréchal de Saxe.
Absolument, c'est ça.
Voilà. Alors c'est quoi ces deux personnages, Charles et son épouse, leur relation? Vous dites qu'elle est très vertueuse, mais...
C'est beau de voir. D'abord, dans cette pièce, il y a deux couples qui sont passionnants. Il y a un couple plus traditionnel qui sont, et puis il y a ce couple d'artistes des Favards qui
le
sont
couple traditionnel. On l'a compris, c'est vous, Anne-Catherine Gillet, vous êtes très traditionnel.
Hector,
on l'a compris.
François Rougier, Hector et Suzanne.
Voilà, vous êtes marié avec un militaire justement, un brigadier, non
bah, Non. Il devient lieutenant de police. Voilà. C'est la condition que mon papa a émise. The.
Pour que vous puissiez l'épouser.
Pour que je puisse l'épouser, voilà.
Vous êtes le couple sage. Et puis le couple d'artistes, vous nous dites
le couple Kessler. D'artistes plus libre. C'est beau de voir ce couple qui est tout de même assez récent dans l'histoire, donc qui est très amoureux et très épanoui et très solidaire et très très artiste. Très,
ça ressemble pas forcément au couple de théâtre absolument... de l'époque qu'on voit habituellement, quoi.
Oui, hein, bah parce que c'est le début de l'histoire. Alors on peut se dire que, mais c'est vrai qu'il y a un air magnifique où Favart est sans sa femme et c'est peut-être un des plus beaux airs de l'opéra. Où il déplore son absence et sans elle, il n'est pas inspiré et il n'arrive pas à créer sans sa présence, sans sa muse. Et c'est un air magnifique. Oui,
je crois qu'on va l'écouter d'ailleurs, mais il faut préciser aussi qu'elle est morte avant lui, je crois.
Et elle était plus jeune que lui. Au moment où ça se passe, la fuite, elle doit avoir une petite vingtaine d'années, je crois. Et lui a plutôt 37 ans, enfin...
Voilà, et elle a été vraiment sa muse et il l'a toujours associée au fond, hein, même dans l'histoire de l'opéra comique, à sa propre gloire.
Hein, voilà. Oui, et puis c'était une femme moderne, c'était une femme, elle était par exemple très très attachée au costume de ce qu'elle portait. Elle voulait pas quelque chose d'anecdotique. Elle allait chercher dans les vrais pays.
Pour représenter des scènes de genre.
Elle avait besoin d'authenticité. Elle a inventé le costume moderne, on peut dire.
Ah oui,
Comme Agnès Terrier nous l'a dit, je pense que ils se sont associés avec son mari. C'est-à-dire que dans les créations de son mari, elle était partie prenante. Voilà. Et d'ailleurs, quand elle est morte, son mari apparemment n'a plus composé. Donc, c'est ce que Agnès nous avait dit.
Voilà, donc c'est un spectacle qui a des résonances avec notre époque finalement.
Oui, et c'est vrai que c'est très drôle, mais évidemment, c'est très léger, donc c'est très profond. Il y a beaucoup d'émotions en filigrane quand même, parce que sinon ce serait superficiel. Donc c'est léger, pas superficiel.
Jean-Philippe Biojou.
Oui, ça c'est toujours le cas d'Offenbach. Il y a toujours plusieurs niveaux. Il y a des personnages très drôles qui sont là pour faire avancer l'action et garder l'attention du public. Et puis il peut y avoir des personnages beaucoup plus profonds avec des sentiments. C'est le cas de Monsieur Favart.
Quand je cherche dans ma cervelle pour parler la langue des dieux, il y manque cette étincelle qui brille dans de jolis yeux. Le regard si doux d'une femme lorsque sur nous il resplendit. Oh, c'est la lumière, c'est la flamme, mais son absence, c'est la nuit, c'est la lumière, c'est la flamme, mais son absence, c'est la nuit. Toutes ces éloquentes choses, ces mots que l'amour fait jaillir, n'est-ce pas sur des lèvres roses qu'un poète va les cueillir? Le doux sourire d'une femme quand près de nous il resplendit. Oh, c'est la lumière, c'est la flamme, mais son absence, c'est la nuit, c'est la lumière, c'est la flamme, mais son absence, c'est la nuit.
La romance de Favart, extrait de Madame Favart de Jacques Offenbach sur un livret de Chivot et Duru, un personnage donc Favart qui a eu presque autant de succès, vous nous disiez hors micro, Jean-Philippe Biojou, que celui de son épouse qui donne le titre à l'œuvre.
Hein, et c'est d'ailleurs, comme vous l'aviez rappelé Benoît, l'air de l'échaudé qui a été le plus applaudi lors de la création.
Un des airs de Favart, voilà. En tout cas, vous le disiez, Anne Kessler, les costumes comptait beaucoup pour Madame Favart. J'imagine qu'il compte beaucoup aussi pour vous, comme pour tout metteur en scène, mais peut-être encore un peu plus dans ce spectacle-là.
Oui, parce que j'ai imaginé que l'histoire commençait dans un atelier de couture, que c'était les couturières qui allaient raconter l'histoire. Et plus précisément l'atelier de couture de l'Opéra Comique. Et voilà, pour...
Alors vous avez fait descendre l'atelier sur scène.
J'ai fait descendre l'atelier sur scène. Ils étaient très contents.
Voilà. Vous pouvez peut-être d'ailleurs nous dire un mot justement des costumes et des décors du spectacle.
Oui, donc, oui, la scénographie a été pensée par
Andrew Edwards.
Edwards. Et puis les costumes, c'est Léa Lieber. J'étais accompagnée par Guy Zilberstein pour la dramaturgie. Et les lumières, c'est Arnaud Jung. J'espère que j'oublie personne dans la technique.
Alors, vous avez été confronté aussi, j'imagine, c'est toujours le cas quand on met en scène un opéra comique, surtout aujourd'hui où les chanteurs n'en ont plus autant l'habitude qu'autrefois, de ce continuel passage du parler au chanter, du chanter au parler, avec ce que ça implique comme problème de registres vocaux, enfin, et de couleurs vocales.
Oui, je pense que l'interprète, je pense que lui, moi j'essaye de ne pas penser à ça, mais je pense que le chanteur et le chanteur-acteur pense à ça et se fait pas mal à la voix, mais moi j'essaye j'ai toujours pensé pendant les répétitions que j'avais affaire à des acteurs et je leur parlais comme je parle aux acteurs.
Et vous-même, Anne-Catherine Gillet, il y a un moment, à la fin de l'air, vous dites « Ah, ça y est, je passe à ma voix parler maintenant ».
Non, non. Mais en même temps, je suis soprano, donc les sopranos, elles ont 10 lignes de texte sur toute une œuvre, en général.
Ah
oui,
ah bon,
c'est vrai ? Oui, ah oui, oui.
On considère que vous n'êtes pas capable de jouer la comédie.
On se dit que ça ne va pas passer, tout ça. Donc. Non, mais ce n'est pas grave, je suis contente. Mais c'est vrai, encore là, j'ai pas énormément de texte.
Quand même, une présence. Enfin, moi, j'ai l'impression que t'en as autant que
non, 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 non. Marion a énormément de texte. En plus de ça, c'est vrai que je sais pas comment elle fait. Elle doit se droguer, un truc comme ça. Non, je blague, évidemment. Mais parce que, en plus d'avoir énormément de texte, énormément à chanter, elle doit en plus composer des rôles différents avec des voix différentes.
Et oui, parce que Madame Favart se déguise un certain nombre de fois.
Exactement. Elle est Madame Favart, elle est une servante, elle est une vieille dame. Oui. Et elle passe de l'un à l'autre. Évidemment, la voix de la vieille dame, c'est fatigant pour la voix parce que elle va parfois
plus éraillée.
Oui, c'est éraillé, c'est aigu, c'est bon.
Elle fait toutes ses compositions comme ça.
Non, mais c'est énorme. Hier encore.
C'est vrai, c'est assez extraordinaire.
C'est impressionnant.
Mais j'ai l'impression qu'elle rit beaucoup aussi. J'ai l'impression que dans le rire, on trouve une détente et ça lui permet de cette souplesse là, beaucoup d'humour.
Alors on le disait aussi, et donc c'est un Offenbach un peu différent de celui des grands opéras bouffes. Néanmoins, on y retrouve un certain nombre d'obsession, on pourrait dire, d'Offenbach, comme par exemple le rythme de la tyrolienne. Hein,
qui est alors là,
Jean-Philippe Biojou, la tyrolienne et Offenbach, c'est inépuisable, ça. Hein.
C'est inépuisable, mais c'est épuisant pour les chanteurs. Hein. C'est très, très exigeant. Et c'est ce qui fait que, comme souvent à l'époque, on écrivait pour un chanteur. Ouais, et après, la difficulté, ça a été le drame des contes d'Hoffmann. Les contes d'Hoffmann, l'ère des quatre femmes. Au départ, Offenbach avait écrit un opéra, et puis pour un type de voix très spéciale. Et puis, c'est Carvalho, le directeur qui fait « Ah, mais moi, j'ai ma petite jeune qu'il faut caler. » Et puis, elle est un peu coloratour sur les bords. Alors, on se met à adapter les airs et qu'aujourd'hui, parfois, il y a des soucis de distribution parce qu'elle doit, théoriquement, c'est la même chanteuse qui doit aussi bien faire la poupée que de faire Antonia, qui est beaucoup plus lyrique et beaucoup plus lourd. Donc, c'est vrai que lui, il a eu la chance de tomber sur des interprètes qui savaient vocaliser. Et heureusement, parce que la tyrolienne, oui, ça...
Enfin, il n'était pas tyrolien. Pourtant, il était de Cologne. Hein. C'était pas très loin des montagnes du Tyrol, hein, mais oui. Alors c'est vraiment la folie de l'époque.
Oui, mais parce que c'est enjoué, c'est amusant et qu'il a le sens de l'effet et le sens du rire, le rire en musique, c'est vraiment ça.
Tyrolia de renaissance, tous les jours nous chantons, gagnons notre existence, une que nous pouvons. Tout à nous,
mon grand frère vend des bouts.
mouchoir.
Mon petit frère vend des bretelles.
Mon grand frère vend des rasoirs.
Mon petit frère vend des dentelles.
Choisis ces braves soldats.
Achetez à l'instant propice.
À mon grand frère Thomas.
À mon petit frère Simplice.
Mon grand frère aime au vallon.
Mon petit frère aime au village.
Mon grand frère aime un pendron.
Mon petit frère une fille sage.
Mais la dot, nous ne l'avons pas.
Achetez pour nous rendre service.
À mon grand frère Thomas.
À mon petit frère Simplice.
Acheter.
Ah
ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
La tyrolienne extraite de Madame Favart. Je sais pas comment elle arrive, cette tyrolienne, dans l'histoire d'ailleurs.
Elle arrive parce qu'ils arrivent dans un camp militaire et ils veulent s'introduire discrètement. Donc, ils veulent passer inaperçus. Ils viennent vendre des mouchoirs, des rasoirs. Et
ils chantent la tyrolienne.
Ils chantent la tyrolienne, voilà, bien évidemment. Toutes les
occasions sont bonnes. Là, c'était Lina Dachary et Bernard Planté dans un enregistrement de 1869. Anne-Catherine Gillet, je crois, j'ai le sentiment qu'il y a quand même un plaisir particulier de chanter toujours à l'Opéra Comique, parce qu'il y a cette scène qui a non seulement une histoire, mais qui a aussi cette proximité avec la salle, avec le public. Vous ressentez ça quand vous êtes là-bas ?
Oui, c'est clair. Ouais. C'est clair que toutes les fois où j'y suis venue, ça a été un bonheur, tant ouais. au niveau, un bonheur humain aussi, ouais. tant au niveau des équipes, parce que c'est vrai que les gens avec qui on travaille, que ce soit les régisseurs, les accessoiristes, par exemple, dans les régisseurs, il y a Emmanuel,
Christa, incroyable,
Annabelle.
C'est très familial tout
mais
ça.
Mais oui, oui, oui.
Ouais, c'est
et
ça.
Puis Maria Chiara dans les bureaux.
Puis on est forcé de se voir vu qu'il n'y a quasiment Agnès, pas de dégagement derrière la scène ni autour. On est toujours tous ensemble sur le côté, dans le foyer.
C'est extraordinaire.
Non, hier par exemple, j'avais mal ici. Et puis ils se sont tous inquiétés. Ils ont appelé un kiné qui est venu. Oui, dans la nuque. Et ils ont appelé un kiné. Le kiné est venu dans ma loge à 5h30. Mais on trouve ça où, ce bonheur, ce luxe. Enfin, on est chouchouté, quoi. Donc on peut que bien chanter.
Ah bah vous voyez, ça fait plaisir d'entendre ça, parce que effectivement, en plus, c'est une salle qui propose une très belle programmation maintenant depuis quelques années déjà. Et on va avoir beaucoup de plaisir à vous y retrouver donc après le Domino Noir. Petite parenthèse, avant de bientôt de se quitter, vous avez entre-temps aussi monté des œuvres rares. Moi, ça m'a beaucoup plu. Par exemple, j'ai vu que vous aviez monté à Marseille les opéras de Jean-Michel Damas. Enfin, vous avez joué dedans, qu'on ne joue plus jamais, qui sont très jolis aussi.
Ah oui, c'était en 2004 et 2007. Il y a eu
Colombe,
en 2004 L'Héritière.
Oui.
Et en 2007, Colombe.
C'est de la belle musique, hein.
Mais
j'adorerais. Pourquoi est-ce qu'on joue jamais ça?
Mais
on devrait le donner
sais
à
pas.
Paris.
J'adorerais le refaire, parce qu'en plus, moi, j'adore ces rôles d'anti-héros comme Blanche dans les dialogues des Carmélites, ou là, l'héritière qui est une fille. Qui est une pauvre petite fille riche, quoi, qui tombe amoureuse du mauvais gars. Son père le voit tout de suite. Elle lui dit, mais il en veut qu'à ton pognon, ma pauvre fille. T'as vu comme t'es? Enfin, personne peut tomber amoureux de toi. Elle est venue au monde en faisant mourir sa mère, en plus. Donc, voilà.
Et Colombe sur le livret d'Anouilh, hein.
Oui, et Colombe, c'est savoureux. Il y a une pièce dans la pièce où la mère du mari de Colombe lui dit mais qu'est-ce que tu veux, mon pauvre garçon, les filles, toi tu donnes toujours que le même menu. un jour, on en a marre de manger, je ne sais plus quoi. Enfin.
un grand compositeur, en tout cas, voilà, qu'on oublie trop aujourd'hui, Jean-Michel Damaz.
C'est vrai.
Mais comme vous êtes une personne très éclectique, je veux que vous chantiez aussi, j'ai vu ça sur Internet, en duo avec Salvatore Adamo à l'occasion.
Ah oui, oui. Mais alors ça a été... Oui, j'ai chanté à l'Olympia, madame. Et au
c'est
grand
le côté
Rex.
Belge aussi, peut-être, non?
Oui.
C'est la belgitude.
Mais en fait, mon mari jouait avec Salvatore, et quand Salvatore... C'est mon mari violoniste et claviériste. Ouais. Et un jour, il a dit, mais je cherche une chanteuse lyrique pour m'accompagner sur un titre que j'ai composé, parce que un jour j'ai lu une interview, enfin un récit comme quoi Onassis avait dit à Callas, mais pourquoi tu vas chanter, moi je te donne tout, mes bateaux, mon or, etc. Qu'est-ce que t'as à aller chanter aux quatre coins du monde? Et donc et Salvatore avait dit, mais enfin quel goujat ce mec, il comprend rien à l'art. Et donc il a composé une mélodie un peu comme un duo entre Onassis et Callas, qui l'air s'appelle Pourquoi tu chantes. Et donc il a demandé à son équipe, mais je cherche une chanteuse lyrique, et mon mari a dit rien. c'est son ami batteur qui lui a dit, mais ta femme elle chante? Et puis il a dit, ma femme elle chante. Ah mais oui, ma femme elle chante. Donc merci mon chéri.
On le trouve en YouTube, mais pas en disque peut-être, non?
Si, en disque.
Ah oui,
oui
aussi. Ah bon, alors on le passera la prochaine fois que vous viendrez, parce que là, d'accord, vous teniez beaucoup à passer une certaine chanson.
Ah, oh, mais vous l'avez pas?
Oui, je l'ai, oui.
Ah, mais on n'a plus le temps.
Non, on a le temps, mais il faut éloigner les enfants du poste, voilà. J'ai bien compris. Hein, ça s'appelle Les Nuits d'une Demoiselle.
Exactement.
Ça me plaît beaucoup, c'est Colette Renard qui a enregistré ça. Hein.
Ouais.
Et voilà.
Et je le dédie à mon ami Nicolas Destiendorf.
Mon cher Nicolas, qui a été longtemps chroniqueur dans cette émission, mais je redis, attention, hein, pour les oreilles sensibles.
La nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais savrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
Merci Anne-Catherine Gillet.
Mais de rien.
Vous envisagez peut-être un jour de faire des petits tours de chant comme ça pour le plaisir, de chansons que vous aimez, ou vous êtes vraiment dans un métier qui vocalement est trop différent, est trop éloigné de la chanson?
Non, non, je n'exclus rien.
Vous n'excluez rien. Vous avez des projets dans le domaine de l'opéra comique ou de l'opérette pour les saisons à venir?
Alors, l'année prochaine, bah oui, il y a Fortunio. Ah, à l'opéra comique.
La reprise du très beau Fortunio qu'on avait pu découvrir il y a quelques années.
Oui.
Eh ben alors ça, on va s'y précipiter pour, voilà, pour vous y retrouver. Et pour l'instant, donc, on le sait, vous êtes dans Madame Favart, dans le rôle de Suzanne, à partir du 20, la semaine prochaine. Ça commence, il faut le préciser, hein, le jour anniversaire des 200 ans d'Offenbach. Ce spectacle, c'est un symbole c'est important, incroyable, n'est-ce pas?
Ah oui, oui, c'est magnifique.
Et Offenbach, on le retrouve également dans le livre donc de Jean-Philippe Biojou, Jacques Offenbach, hein, qui est paru il y a quelques mois, que vous avez écrit, voilà, pour rendre compte de votre passion. Je crois que d'ailleurs vous avez parfois consulté un peu notre ami offenbachien Jean-Christophe Keck, qui n'est pas là ce matin, mais
qui est un puits de science. Il connaît tout par cœur. Voilà. Il connaît tout par cœur. Et puis moi, je me suis fait le plaisir de mettre une centaine d'illustrations pour donner un peu envie. Il y a tellement aussi d'éléments d'archives qu'on peut trouver partout que c'était l'occasion quand même offerte.
Voilà, il faut dire que Jean-Christophe a par ailleurs s'occupe de l'édition scientifique intégrale de l'œuvre d'Offenbach et il a fait une très belle édition de Madame Favart il y a déjà quelques temps. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi c'est pas l'édition qui a été reprise à l'Opéra Comique. En tout cas, voilà, elle sera dirigée par Laurent Campellone. Et puis on peut citer quand même aussi le chanteur, on l'a à peine évoqué, qui interprète le rôle de Monsieur Favart.
Christian Elmer.
Christian Elmer, oui. Anne Kessler. Hein.
Oui, oui, qui est magnifique, qui est très jeune, qui est assez jeune et qui est, je ne sais pas, très viril, très, très moderne. J'aime bien cette image.
Et puis votre mari et votre papa.
Mon mari, c'est François Rougier. Mon papa, c'est Franck Léguérinel. Le méchant qu'on adore détester, c'est Éric Huchet. Il y a Lionel Peintre aussi. Alors,
Raphaël Brémard. C'est une équipe incroyable.
Ce sont des sacrés acteurs-chanteurs, ça.
C'est extraordinaire. C'est des acteurs incroyables. Donc, ouais. C'était joyeux.
Et moi, ce que j'aurais voulu dire, si j'ai encore une seconde,
c'est que dans
cette œuvre, j'adorerais qu'il y ait un miroir pour qu'on voit le chef, parce que c'est un tel bonheur de travailler avec Laurent Campellone.
Il aime vraiment cette musique, bien sûr.
Mais on voit dans ses yeux une gourmandise.
Il aime cette œuvre, il aime
une passion, un bonheur, et sans lui, ça serait vraiment pas pareil.
Il est un peu metteur en scène aussi.
Il le vit en même temps dans la fosse.
I love you, Laurent Campellone.
Oui, voilà.
On le salue. Salut. Et on va aller l'applaudir dans quelques jours. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On va se quitter, c'est pas Madame Favart, un petit peu de contraste. Jean-Philippe Biojou, vous avez choisi, elle est tellement belle, cette valse de Robinson Crusoe. Chanté par John Sutherland.
Oui, alors moi j'aurais rêvé qu'Anne-Catherine le chante. C'était pour sa voix.
Mais Jeudi de Vos l'a enregistré sous Laurent Campbell, sous la direction.
J'ai Colette Renard, vous avez.
Pardon, excusez-moi. Sous la direction, si je ne m'abuse, sous la direction de Laurent Campbell, il y a le disque est sorti il y a 6 mois.
Ouais, voilà, aussi dans le récent et très joli disque de Jeudi de Vos.
Qui est belge.
Aussi, vous voyez. Mais d'ailleurs, on sait que les grands chanteurs français, le plus souvent, viennent soit du nord de la France ou de Belgique, soit de Toulouse et de sa région. C'est comme ça, l'histoire s'est ainsi faite.
Donc les grands chanteurs français ne sont pas français.
Et en tout cas, Robinson, qui lui a été créé, Robinson Crusoe, à l'Opéra Comique.
Voilà, et dont on écoute donc cette grande valse. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
Merci.
Oh, my sweet.
La valse de Robinson Crusoe, chantée par John Sutherland avec Richard Bonin. J'ai encore, voilà, de la belle musique d'Offenbach dont nous avons beaucoup parlé ce matin avec mes invités à l'occasion de Madame Favart qui sera donnée à l'Opéra Comique à Paris du 20 au 30 juin prochain. Précipitez-vous si vous voulez y aller parce que je ne sais pas s'il reste tellement de place. Mais par contre, si vous voulez cet après-midi, vous avez aussi la possibilité, voilà, d'aller découvrir à l'Opéra Comique le Salon de thé Violetta et Alfredo avec la participation d'Agnès Terrier dont nous avons parlé, de la dramaturge de l'Opéra Comique, et vous pourrez même découvrir la spécialité pâtissière de Monsieur Favart père qu'on a évoqué tout à l'heure, des pâtisseries de Favart, les fameuses échaudées, et beaucoup de voilà d'éléments pour mieux découvrir cette œuvre aujourd'hui à 16h. À l'Opéra Comique, l'entrée est libre, il y a juste une petite participation pour la dégustation des échaudés.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puisqu'il nous reste quelques minutes, eh bien, je vous propose d'écouter encore, pour le plaisir, quelques petits choix de la semaine, à commencer par cette étrange musique mécanique de Monsieur André Pop. On connaît évidemment son piccolo et saxo, ou encore Lovis Blue, ou encore les Lavandières du Portugal, mais on connaît moins bien toutes ces musiques assez loufoques qu'adorait concocter André Pop à l'image de cette musique mécanique. Et puis tiens, je voulais vous faire aussi réécouter, elle nous a quitté il y a peu de temps, une très jolie chanson de Mick Michel. Je vous l'avais passée, mais elle est tellement bien, j'ai envie de vous la repasser encore. Les paroles sont drôles, elle a écrit comme souvent paroles et musique, ça s'appelle « Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là ».
Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Non pas que je t'aime moins près de moi, mais je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Car je peux rêver de toi. Quand tu es loin, le temps me dure. Je repense à nos discussions. Tes intentions me semblent pures. Je finis par te donner raison. J'idéalise notre amour, ne te trouvant que des vertus. Mais lorsque tu es de retour, je comprends que parfois l'on tue. Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Non pas que je t'aime moins près de moi, mais je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. car je peux rêver de toi. Pardon, mon amour, de te dire tout ça, mais viendra le jour où tu le verras. Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Non pas que je t'aime moins près de moi, mais je t'aime encore plus quand tu n'es pas là, car je peux rêver pour toi. Y a pas moyen quand nous sortons de rentrer à une heure normale. Toi tu es frais comme un gardon, moi je m'éteins et deviens pâle. Mais le matin y a plus personne, je me fais un mauvais sang fou. Papa t'en rond, toi tu ronronnes, oubliant tous tes rendez-vous. Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Non pas que je t'aime moins près de moi, mais je t'aime encore plus quand tu n'es pas là, car je peux rêver pour toi. Je t'aime encore plus quand t'es contre moi. J'ai chaud, je suis bien dans tes bras. Je ferme les yeux, tu ne parles pas, et je peux rêver de toi.
Mick Michel, Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là, une chanson de 1956. Et un petit salut à notre regrettée Louise Michel. On va se quitter maintenant avec un très beau morceau de musique symphonique, comme j'aime vous proposer souvent en fin d'émission. Et puis ces derniers mois, vous avez peut-être remarqué, j'ai fait des petits coups de chapeau à Édouard Lalo, parce que j'adore Édouard Lalo. Je trouve qu'on ne joue jamais assez Édouard Lalo, même sa symphonie espagnole qui a été le concerto français pour violon le plus joué pendant longtemps, on ne la joue plus guère, et c'est bien dommage. Et puis il y a partout des perles comme celle que je vous ai fait entendre, comme cette ouverture du Roi 10 par exemple, comme ce scherzo pour orchestre, ou encore ce final du concerto pour piano qu'on avait écouté. Mais peut-être rien n'est à mettre au-dessus du ballet Namouna. Et comme malheureusement nos orchestres symphoniques ne jouent plus tellement de suites de ballet, eh bien on n'a jamais l'occasion d'entendre cette musique extraordinaire, sauf de temps en temps à l'Opéra de Paris, où c'est parfois repris sous le titre de Suite en blanc, le ballet Namouna de 1882 qui avait enthousiasmé le jeune Debussy et qui est une musique visionnaire. Vous allez le voir, avec ses parades de foire, on a l'impression, avec un peu d'avance, d'être presque déjà au temps du Sacre du Printemps. C'est l'Orchestre National de France sous la direction de Jean Martinon. We'll be right back. Édouard Lalot, les parades de foire extraites du ballet Namouna et qu'on retrouve donc dans la première suite de Namouna, ici enregistrée par l'Orchestre National. À l'époque, c'était de l'ORTF sous la direction de Jean Martinon. D'autres pages magnifiques que je ne saurais trop vous recommander, comme par exemple la valse de la cigarette, même si ça ne se dit plus aujourd'hui. En tout cas, voilà, c'était Namouna d'Édouard Lalot avec lequel je vous proposais de terminer ce samedi matin. Ainsi s'achève effectivement Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier avec aujourd'hui à la technique Adelino Mello ainsi que Cindy Le Grumelec, réalisation Philippe Petit. Et on se retrouve bien sûr samedi prochain, je recevrai avec beaucoup de joie Félicien Brut, un jeune brillant et déjà célèbre accordéoniste qui viendra nous parler de toutes les musiques qu'il aime, qu'il joue, y compris même le Musette. Vous verrez les ponts entre les différents mondes de l'accordéon, ce sera au programme samedi prochain. Mais je vous disais, on termine la matinée avec Lalo, non, on a encore un rendez-vous maintenant qu'on ne va pas rater, c'est celui de la guitare avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.